Werner von Heidenstam, Huracaipa. La détresse de la tribu. Inlassablement, la neige tombait, s'accrochait à toutes les branches, couvrant tous les sentiers. Il était devenu impossible de s'orienter sous la bourrasque. Depuis plusieurs jours déjà, un silence de mort régnait dans la forêt. Seul, à la tombée de la nuit, montait parfois une clameur lointaine qui semblait exhaler d'innombrables poitrines. Un soir, les voix lointaines s'élevèrent plus sauvages et plus sinistres que jamais. La clameur partait d'une sorte de clairière au milieu de la forêt. C'était une place arrondie, entouré de roches gigantesques que l'on nommait le bois sacré d'Huracaipa. Entre les roches disposées en cercle, la foule des cerfs se tenait debout, torche en main. De temps à autre, lorsqu'un coup de vent plus violent ramassait les flocons de neige et les renvoyait vers les couronnes des pins, la lueur des flambeaux éclairait pour un instant la hutte d'Huracaipa dressée au milieu de la clairière. De tous côtés, la hutte était tapissée de crânes humains et de haches de silex. Au rythme du vent, les têtes qui étaient suspendues par les cheveux, encore attenants, sonnaient les unes contre les autres ou s'entrechoquaient avec les haches de silex. À la porte de la hutte, un homme se tenait assis sur un siège. Les cerfs brandissaient leurs torches et poussaient des cris chaque fois qu'ils apercevaient son bonnet rouge et le collier de dents d'ours dont les tours multiples lui descendaient jusque sur les épaules. Nul autre n'était aussi richement paré. C'était Huracaipa, le chef, en personne. Les cheveux épars auréolaient de leur broussaille un visage sans barbe et se mêlaient aux poils hérissés de sa fourrure fabriquée de nombreuses peaux différentes. Huracaipa et les anciens de la tribu étaient à la fin du festin de sacrifice. D'un coup sûr, d'une petite massue, ils brisèrent les os à moelle disposés devant eux sur l'autel. Puis ils sucèrent la moelle et lancèrent aux cerfs les os vides. Finalement, ils se mirent à jouer. Leurs armes et leurs ornements leur servirent d'enjeu. De tous les temps, le chef de la tribu s'était appelé Huracaipa. Autrefois puissante et grande, la tribu, le peuple d'Huracaipa, se vit de proche en proche refoulé vers la montagne par cet autre peuple qui avait envahi la contrée et auquel l'éclat de ses armes magnifiques avait valu le surnom les Fulgurants. Debout derrière le siège du chef se tenait un jeune homme aux cheveux blonds. Visiblement, il n'était pas du sang d'Huracaipa. C'était un fils des Fulgurants de l'autre côté du lac. Son nom était Carilas. Un jour, il y avait de cela déjà longtemps, il avait rencontré Huracaipa dans la forêt et ils étaient devenus une paire d'amis. Tous deux étaient encore enfants ce jour-là, mais ils étaient incapables, l'un et l'autre, de dire leur âge, car ils ne savaient pas de nombre au-delà de 9. Les hommes de la forêt, comptant sur les doigts, oubliaient invariablement le pouce qui leur servait à dénombrer ceci. Or, le peuple d'Huracaipa vieillissait plus vite que les autres peuples. Voilà pourquoi, tandis que son ami n'était encore qu'un jouvenceau frêle et gracieux, le chef portait déjà les traits hâlés et quelque peu ridés de l'homme mûr. Carilas. Carilas, appelèrent les anciens d'une voix qui était pleine de mépris et de dédain, parce qu'il le jalousait à cause de l'amitié que lui montrait le chef. « Pourquoi penches-tu la tête? Viens plutôt avec nous tenter la fortune du jeu. » Sans bouger, le jouvenceau demeura derrière le siège du chef. Les anciens éclatèrent de rire. « Tiens, c'est vrai, » continuèrent-ils. « Que pourras-tu bien nous offrir comme enjeu, toi, un étranger sans père? Peut-être t'es hard pour ensuite marcher tout nu dans la neige. les joues enflammées par une rougeur de dépit, Carillas s'avança. Il savait qu'il ne possédait rien au monde, hormis lui-même et l'amitié d'Urakaipa. « Mon enjeu, dit-il, fou de colère, c'est moi-même. Je serai le serf de celui qui gagnera. Mais si c'est moi qui gagne, vous me donnerez un vêtement de peau tout neuf avec une ceinture et des poignards. » Urakaipa lui adressa un regard plein de reproches. « Alors c'est moi qui jouerai contre toi, dit-il vivement. » Car il craignait que son meilleur ami ne devînt le serf de quelqu'un des autres. Vite, il plongea sa main dans un petit sac et en retira un éclat de pierre, qu'il lança devant lui. Et tous virent que la pierre était de couleur rouge. Il avait gagné. Immédiatement, les anciens saisirent Carillas et le firent prosterner devant le siège, forçant Urakaipa à lui poser le pied sur la nuque. « Nous en sommes les témoins, chef, » firent-ils avec une joie visible. « Maintenant, tu as fait de l'étranger fulgurant ton serf. » Carillas eut la sensation que quelque chose, comme un coup de hache, le séparait de son propre corps. Qu'était-il dorénavant, puisqu'il ne se possédait même pas? Sa colère tombée, il comprit combien son défi avait été sot. Sa seule consolation était la pensée que c'était Urakaipa, et non pas un autre, qui allait disposer de lui. Urakaipa, de son côté, soupira avec douleur, tout en ayant peur de montrer sa faiblesse. « Voyons, lève-toi, dit-il, et va rejoindre les serfs. » Ce soir-là, le chef ne parla plus guère, mais la neige continua à tomber sans cesse. Les anciens se réunirent de nouveau tard dans la nuit, devant la pierre qui servait d'autel. « Nous avons récité les formules magiques et fait les sacrifices d'usage, murmurèrent-ils. Et pourtant la neige ne cesse pas de tomber. Le printemps a beau être proche et les nuits devenir courtes, la neige ne cesse de nous entourer de tous côtés, telle une haute muraille. Instable et floconneuse, elle s'ouvre sous les skis, et nous ne pouvons pas aller à la chasse. Les cerfs se meurent de famine, et bientôt, nous n'aurons plus une brindille pour alimenter le feu dans nos huttes. Le pays n'est plus habitable pour les hommes. Soleil, soleil, nous as-tu abandonnés? Ne nous reviendras-tu jamais? Certes, le pays n'est plus habitable pour les hommes, confirma Urakaipa en levant les yeux au ciel. Soleil, t'es-tu caché sous la plaine de la terre dans la vallée des ombres, pour ne nous envoyer à la place du jour que de la brume grise? Au-dessus de nous, il n'y a plus d'étoiles. Il n'y a plus rien que la neige tourbillonnante. Et toi, mort, par le froid et par la famine, maintenant tu nous frappes? Lorsque les cerfs entendirent la plainte du chef, ils se mirent à piétiner leurs torches en criant eux aussi. Soleil, soleil, nous as-tu donc abandonnés? « Tu tenteras encore un sacrifice, Urakaipa, conseillèrent les anciens. Mais alors, il faudra que tu choisisses le premier, le plus beau de tes serfs, et c'est Carillas. Et pendant le sacrifice, nous enverrons des éclaireurs sur la montagne pour voir si le soleil arrive. » Urakaipa resta silencieux. Mais il se détourna lorsque les sacrificatrices arrivèrent avec Carillas. Ses prêtresses étaient de très vieilles femmes, toutes ratatinées. Comme tout le monde, elles portaient des vêtements de peau, mais ces peaux étaient débarrassées de leurs poils et ornées de lignes et de cercles noirs et blancs. Elles étendirent Carillas sur l'autel, puis prirent deux troncs d'arbres dont elles disposèrent un de chaque côté de lui. Solidement et avec soin, elles attachèrent ses mains et ses pieds de telle manière qu'une main et un pied se trouvèrent fixés à chaque tronc d'arbre. Ensuite, la première des prêtresses le piqua d'un couteau dans l'épaule, légèrement, juste assez pour recueillir quelques gouttes de sang sur la lame de silex. Ayant reçu le couteau de ses mains, Urakaipa, suivi des anciens, rentra dans sa hutte. Le sol y était pavé de grandes dalles qui étaient soigneusement balayées, car chez le peuple d'Urakaipa, rien n'était l'objet d'un mépris aussi profond que la terre. un chef qui l'eût touché de ses mains eût été déshonoré pour toujours, et personne ne voulait la travailler. Les hommes de la forêt avaient coutume de dire « Nous qui allons à la chasse et à la pêche, nous qui sommes les adorateurs du soleil, comment pourrions-nous tenir le sol en estime, fait de plantes et d'animaux pourris? Il est impur. » Au milieu de la hutte, une peau se trouvait étendue au-dessus de la source sacrée. Religieusement, Urakaïpa la tira de son côté et éclaira la nappe d'eau à la lueur d'une brindille de bois enduite de résine. Un froid humide et glacial s'exhala, et les anciens reculèrent avec un certain frisson. « Le vois-tu ? » se disaient-ils l'un à l'autre. « Le vois-tu ? Le marteau d'éclair que le feu du ciel lança contre les géants pour venir en aide au peuple d'Urakaïpa ?»« Je le vois, » répondit le chef en se penchant encore plus profondément. Au fond de l'eau, il avait perçu une roche, grande comme un loup accroupi, et qui avait vaguement la forme d'un marteau. Ouvre-t-il son œil? Existe-t-il du sang? Insistèrent-ils à voix basse. Urakaïpa fit tournoyer la brindille de bois fumante pour voir s'il se produisait des reflets dans le grand trou creusé au milieu du rocher. Aucun reflet n'apparut. Tout resta noir. Le chef poussa un soupir de soulagement, car il pensait à son ami sur l'autel. « Le marteau d'éclair d'or, » fit-il, « et vous autres, à demain, à l'aube. »« À demain, à l'aube, » répétèrent les anciens, et ils s'en retournèrent vers les autres huttes qui étaient situées hors du cercle tracé par les roches. Les chiens continuèrent encore quelque temps à hurler, mais enfin, eux aussi s'introduisirent dans les huttes et allèrent se blottir près des hommes. Carilas sur l'autel. Incapable de faire le moindre mouvement, Carilas resta étendu sur la pierre gigantesque qui formait l'autel. La neige s'amoncelait de plus en plus haute sur sa poitrine, au-dessus de tout son corps. Elle se tassa autour de sa tête, lui couvrant le front, les yeux et la bouche. Une des sacrificatrices revint. Elle écarta la neige de son visage afin de le regarder à la lumière d'une torche. Carilas pensa que c'était là un acte charitable et que sa main était douce et bonne comme celle d'une mère affectueuse. Mais lorsqu'après une longue attente, elle revint de nouveau et qu'il tourna légèrement la tête pour pouvoir rencontrer son regard, il vit les yeux de la sacrificatrice briller cruellement comme ceux d'un oiseau de nuit avide de proie. Vivement, il ferma les paupières. Alors, il essaya de penser, mais sans cesse son effort se heurta à quelque chose de blanc et d'impénétrable comme de la neige. En effet, il ne savait rien du monde. Sa pensée ne pouvait couvrir que 9 années en avant et 9 années en arrière. Passé ses limites, le temps n'existait plus pour lui. Et dans l'espace, il ne pouvait se figurer des distances éloignées de plus de 9 journées de marche du camp. Là, son monde était fini. Après cela, il n'existait plus rien. Et voilà qu'au milieu de ce petit monde rétréci qu'encombraient les montagnes, il se trouvait maintenant seul, étendu sur l'autel, abandonné de tous, même de son meilleur ami. Non. Ce pays n'est plus habitable pour les hommes, sanglota-t-il. Peu à peu, le sommeil le gagna, car il sentit une douce chaleur envahir tous ses membres à mesure que l'amoncellement de neige augmentait. Et il pensa, il y a encore longtemps, très longtemps, d'ici l'aube, d'ici que mon pauvre corps soit mis en pièces par les couteaux de Silex. Ayant longtemps somnolé ainsi, il commença à se demander, tout en dormant, pourquoi la sacrificatrice n'était pas revenue encore une fois écarter la neige de son visage? Il avait pourtant un cœur d'être humain. Il essaya d'ouvrir les yeux, mais ses paupières scellées par la glace ne s'entr'ouvrirent qu'après beaucoup d'efforts, et non sans lui causer une cuisante douleur. Il ne reconnaissait plus les objets familiers, La bourrasque avait cessé de verser son tourbillon blanc-gris de neige. Et, innombrables, les étoiles brillaient, claires et nettes, sous la tente noire qui couvre le monde. Plus bas, celle qui touchait presque à la forêt scintillait plus pâle, et comme enveloppée d'une brume rose. « Ce sont les yeux des ancêtres qui me regardent charitablement, » se dit-il. « Et ceci, c'est la mort, puisque tout est si beau. Pauvre Carélas, te voilà mort. Cela vaut peut-être mieux pour toi. Et pourtant, j'ai envie de pleurer sur toi qui a été chassé de parmi les vivants dans la fleur même de ta jeunesse. Mais de cette façon, les sacrificatrices, ces horribles femmes, brandiront en vain leurs couteaux demain matin, » conclut-il en faisant la moue. Une chose pourtant l'intriguait. Comment se faisait-il qu'il pouvait entendre si nettement les cerfs sortir des huttes en courant et en s'interpellant? Urakaipa lui-même apparut, et une musique étrange et solennelle se fit entendre. Avec une vitesse vertigineuse, les cerfs faisaient tambouriner leurs doigts sur de petites caisses, et il en sortait une sorte de sifflement aigu, qui s'enflait peu à peu, pour finalement imiter le grondement de la tempête. Tous demeuraient debout, tournés du même côté, fixant des yeux un seul et même endroit lointain, où l'on vit lentement jaillir un bouquet de lumière rouge, duquel fusèrent deux puissants rayons qui s'engouffraient sous les pins neigeux. C'était le soleil tant attendu, qui enfin se levait dans un ciel radieux. Du sud arriva une bande de canards sauvages, les ventres rutilants dans la lueur montante. Carélas était trop engourdi par le froid pour sentir qu'à ce moment même, les sacrificatrices déliaient ses mains et ses pieds. Il fallut qu'elles crièrent à ses oreilles pour qu'il comprît enfin qu'il était encore en vie. « Tes souffrances de cette nuit ont touché le soleil, » dirent-elles. Nous n'avons plus besoin de sacrifier ton sang. Va rejoindre les cerfs et apprends à travailler. » Les haches de silex d'Urakaipa. Après tant de journées d'angoisse, les cerfs étaient contents de reprendre leur travail. Le brouhaha était intense, mais néanmoins, on ne se pressait point, car l'adage disait « Le temps ne nous fera jamais défaut ». D'aucuns étaient en train de faire cuire des pots de terre qu'ils avaient joliment ornés de lignes et de points creux. Comme le fond des pots était arrondi, ils ne pouvaient pas être posés à terre, ce qui d'ailleurs eût été inutile. Leur destination était d'être accrochés à l'aide de lanières dans les huttes. D'autres cerfs se mirent à enduire de résine de petites boîtes de bois qui devinrent ainsi impénétrables à l'eau. D'autres encore, à l'aide de leurs petits couteaux, grattaient des pots, qu'ils rendaient ainsi plus souples et plus agréables pour la confection des vêtements. Les femmes divisaient finement les tendons d'animaux, destinés à fournir le fil qu'elles passaient dans leurs aiguilles en os. Dans les vêtements qu'elles cousaient, les points se faisaient réguliers. Mais la grande partie des hommes, rangés en cercle, était occupé à frapper avec des morceaux de granit de petites pierres en silex, faisant ainsi tomber des éclats innombrables jusqu'au moment où apparaissait dans leurs mains un couteau, une hache ou la pointe d'une lance. Ensuite, ils ramassaient les éclats pour les utiliser plus tard comme pointe de flèche. Tous leurs outils et toutes leurs armes étaient en silex ou en os, et les haches de silex étaient leur orgueil. Carélas alla s'asseoir très loin avec les cerfs chargés du travail le plus lourd. C'était à eux de tailler les haches de combat d'Urakaipa. Lorsque de temps à autre, un cerf faisait montre d'une habileté telle que le chef daignait accrocher au mur de sa hutte une hache fabriquée par lui, il pouvait également arriver que le chef le récompensât en lui rendant sa liberté. Et Carélas savait cela. C'était surtout les vieux cerfs qui étaient occupés à cette besogne. L'un d'eux venait précisément de mourir durant les jours de détresse. Et la hache à laquelle il avait travaillé restait encore là, bien taillée et bien aiguisée, seul manquait le trou du milieu, destiné à recevoir le manche. Karelas posa la hache à terre, entre ses genoux, et Sikoega, le vieillard qui se trouvait à ses côtés, lui montra comment il fallait s'y prendre. « Ce n'est pas long à apprendre, dit-il, et le temps ne nous fera jamais défaut. Tu n'as qu'à poser un os long contre la hache et à le faire tourner vite entre tes mains. » Au bout de l'os qu'il tenait vers en haut, Karelas attacha une pierre pour arriver ainsi à creuser avec plus de force et plus de fermeté. Il se dit « Le jour où je saurai faire une hache digne du chef, je serai libre et de nouveau je pourrai me tenir à côté d'Urakaipa. » Et sa vrille tournait d'une vitesse accrue. Mais Karelas eut beau travailler longtemps, au lieu du trou espéré, il ne put découvrir qu'un petit anneau blanc qui se dessinait faiblement dans le silex. « Verse donc abondamment de l'eau et du sable sur la hache, lui conseille Sikoega. C'est le sable dur et coupant qui creuse. » Karelas obéit, mais une douleur vive et cuisante commença à envahir ses paumes, et de proche en proche, la douleur gagna ses bras. « Maintenant, j'ai travaillé la moitié de la journée, haleta-t-il finalement. Et pourtant, je n'ai pas réussi à traverser la hache. J'ai creusé des deux côtés, vois-tu, et pourtant les deux trous ne se sont pas rejoints. »« La moitié de la journée, » s'écria Sikoega, qui lui-même avait les mains recouvertes de durillons noirs qui les faisaient ressembler à des pattes de chien. « Le temps ne nous fera jamais défaut. » Je ne sais pas depuis combien de temps je suis ici à travailler aux ornements qui parent le manche de la hache de combat d'Urakaipa. Karelas se tut, mais à la tombée du jour, il demanda. Sikoega, quand ta hache sera-t-elle prête, crois-tu? Pas avant 2 ans au moins, répondit le vieillard. Et par malheur, mon bras est en train de s'engourdir. Voilà pourquoi je ne sais même pas si j'arriverai jamais à la finir. Et si je n'y réussis point, j'aurai travaillé en vain. Et je ne serai jamais un homme libre. Tandis que toi, tu es jeune, et si tu as de la patience, tu arriveras. Le lendemain, Karelas resta assis devant sa hache sans la toucher, car ses bras étaient engourdis par la douleur. Les anciens qui venaient surveiller le travail des serfs se mirent en colère en apercevant Karelas. Tu ne sais pas faire grand-chose, mauvais serf, bégayèrent-ils en ramassant du terreau qu'ils jetèrent sur lui pour lui montrer leur mépris. Un tremblement leur agitait tout le corps, et leurs mains s'ouvraient et se refermaient alternativement. Des serfs accoururent et leur enlevèrent leurs bonnets. Sur les têtes nues des anciens apparut un petit couvercle qui était maintenu en place sur un trou rond creusé dans l'os même du crâne. Ces trous étaient l'objet d'une grande vénération et seuls les anciens avaient le droit d'en avoir. Par ce trou, les humeurs malfaisantes pouvaient s'échapper. Et lorsqu'enfin un jour ils seraient morts, la lumière du soleil pourrait pénétrer par là pour boire leur esprit. Ayant soulevé les couvercles pour laisser passage aux humeurs malfaisantes, les anciens se calmèrent peu à peu. « Chef, dirent-ils, il faut que tu soumettes Karelas à la grande épreuve. » À ces mots, les serfs laissèrent tomber tous leurs outils, car tous se rappelaient trop bien que toujours cela avait fini mal pour ceux qui avaient été condamnés à subir la grande épreuve. « Cela aussi vous l'exigez de moi ?» s'écria Urakaipa, qui se tenait sur le seuil. « Eh bien, Karelas, tes bras sont faibles et inutiles. Pourquoi te donnerions-nous des vêtements et de la nourriture? Montre-moi si ta sagesse est plus forte que ton corps. Si tu sais évaluer toute la richesse d'Urakaipa, mais seulement alors, tu continueras à vivre, car alors tu auras heureusement satisfait à la grande épreuve. Sais-tu compter les richesses d'Urakaipa? Sauras-tu me dire le nombre des haches de silex qui couvrent la hutte d'Urakaipa? vivement, Carélas alla ramasser 9 haches qu'il mit en tas. Les cerfs éclatèrent de rire. Certes, jusque-là nous savons tous compter, mais après, où arriveras-tu maintenant? Carélas resta hésitant. Puis de nouveau, il décrocha 9 haches, dont il fit un nouveau tas à part. Les cerfs et les anciens secouèrent la tête, ne comprenant pas ce qu'il voulait faire. Mais lui continua à décrocher les haches et à les disposer par tas, jusqu'à ce qu'il y eût 9 tas. « Jusqu'ici cela va, crièrent les anciens, mais il y a encore des haches accrochées à la hutte. » Carélas décrocha les 2 dernières haches et les mit à part. Il demeura hésitant. Mais subitement, l'énigme s'éclaira pour lui et joyeusement il s'écria « Urakaipa, tu possèdes 9 fois 9 haches et encore 2 ». Une clameur d'admiration monta de la foule des cerfs et du doigt, Urakaipa traça dans l'air l'image du marteau, le signe vénérable. Jusqu'à ce jour, dit-il, les haches d'Urakaipa ont été dites innombrables. Or, depuis longtemps déjà, j'ai compris que les fulgurants de l'autre côté du lac possédaient des dons magnifiques qui nous sont inconnus. Il serait dommage de prendre la vie d'un cerf pareil. Car hélas, vendu aux marchands. La neige commença à fondre. Lorsque la glace fut disparue des cours d'eau, les marchands vinrent, remontant les fleuves dans leurs barques afin de troquer le silex et l'ambre contre les fourrures du pays. C'étaient des hommes sauvages et cruels. Et pendant les nuits, on les voyait s'attarder autour de leur feu au bord du lac. Un soir, Urakaipa vint tout seul chercher Carélas, qui l'amena avec lui vers le lac. Tous deux marchèrent en silence. Les pensées d'Urakaipa étaient tristes. Ce jeune homme représente tout ce que j'aime en ce monde, se dit-il. Je ne peux plus conserver mon meilleur ami comme cerf, car il est défendu de parler avec bonté à un cerf. Je ne peux pas porter un tel fardeau jour après jour. Mais à voix haute, il dit, lorsqu'enfin il put se décider à parler. Il est bien difficile de voir clair ici sous les branches, au crépuscule. Il faut que je m'appuie sur ton bras, Carélas. Le cœur de Carélas battit de joie lorsqu'il sentit le bras de son ami serrer le sien. À ce moment-là, il aurait volontiers donné sa vie pour Urakaipa. « Marche donc plus vite, » commanda le chef pour en finir avec la lutte qui se livrait en lui. « Savoir compter est chose inutile chez moi, tandis que les marchands, eux, pourront avoir besoin d'un cerf de ton espèce. » Les marchands étaient assis sur un coffre qu'ils surveillaient attentivement. Dans ce coffre, il transportait une chose tellement précieuse qu'il ne la vendait qu'aux chefs les plus riches de l'autre côté du lac. Voyant qu'il l'avait reconnue, Urakaipa déclara « Malheureux celui qui n'a point de cerf, car il est obligé de faire tout soi-même. Tandis que celui qui possède des cerfs voit se faire tout ce qu'il veut. Voici que je viens vous offrir le meilleur de mes cerfs contre un peu de la chose que vous conservez dans le coffre. » Tu aurais beau nous apporter 4 cerfs, répondirent-ils. Cela ne suffirait pourtant pas pour un pareil troc. Mais à cause de ton amitié qui nous est chère, nous acceptons le troc. Cela disant, ils entrebâillèrent un peu le couvercle. Juste assez pour pouvoir sortir ce qu'ils cherchaient. Un objet sonna contre le bord du coffre, et des étincelles jaillirent dans la claire nuit d'été, comme s'ils avaient eu entre leurs doigts un morceau du soleil lui-même. C'était du cuivre et de l'étain fondus ensemble et qui formait un petit lingot de bronze. Carélas sentit que son ami lâchait sa prise. De nouveau, il était seul, vendu aux étrangers cette fois. Il tourna légèrement la tête afin de suivre le regard d'Urakaipa aussi longtemps que possible. Le chef avait déjà repris le chemin du retour, regardant furtivement le butin acquis, qu'il soupesait dans sa main. Mais arrivé en haut du rocher le plus aigu, il s'arrêta, torturé par le remords. Et d'un geste brusque, il jeta le morceau de soleil dans le lac. Personne n'aurait le droit de dire qu'il avait vendu Carélas pour un gain quelconque. Dès l'aube, comme les brumes s'éclaircissaient à peine, les marchands étaient déjà au milieu du lac, amenant leurs serres nouvellement acquis. Un d'entre eux mouilla sa main dans l'eau, et ensuite il la frotta sur la surface intérieure de la barque qui était creusée dans un tronc de chêne. À l'aide du feu. Finalement, il frotta vigoureusement la tête et les bras de Carélas, qui devinrent tout noirs sous le dépôt de suie. Vous savez bien que le peuple fulgurant n'achète aucun de ses propres membres comme serre, dit-il aux autres. Mais maintenant, nous pourrons facilement vendre le jouvenceau, et peut-être avec avantage, car ainsi, il a l'air d'appartenir au peuple d'Uracaipa. Carélas regarda sans rien dire l'autre côté du lac, où il avait joué étant enfant, mais que depuis, il avait presque oublié. La lumière jaune de l'été baignait les champs et les meules près des maisons heureuses qu'abritaient des frênes sacrées. Les maisons étaient rondes, entièrement couvertes de terre, et leurs toits étaient pointus. Partout il y avait des hommes, et subitement, il eut un sursaut de tout son corps à la vue d'un spectacle qui lui était familier. C'étaient les cors de bronze qui sonnaient. Le peuple était précisément en train de célébrer une fête au bord du lac, et les pointes des flèches et des haches de combat rutilaient comme des rayons de soleil, car tout était en bronze. Les vêtements de laine blanche avec des bordures jaunes disparaissaient sous les parures. Les plus grandes boucles de bronze s'ornaient d'incrustations de résine sombre. Le cou des femmes était encerclé de hautes parures de bronze et leurs riches chevelures étaient relevées à l'aide de peignes de corne et de filets en laine filée, transparents comme des doigts d'araignée. Une voiture approcha, entourée de prisonniers de guerre destinés à la mort. Les marchands s'empressèrent d'aborder et vendirent sur-le-champ Carélas comme serre pour le sacrifice qui se préparait. En frappant sur leurs poignards, l'air menaçant, ils lui défendirent de parler, et ils montrèrent au peuple que leurs prisonniers étaient bien du teint sombre, comme tous ceux qui étaient issus de la tribu d'Uracaipa. Vivement, deux jeunes filles saines de fleurs le revêtirent d'une sorte de chemise de laine souple, et le firent ranger parmi les prisonniers voués à la mort, qui entouraient la voiture. Celle-ci était traînée par un couple de génisses blanches, dont les harnais couleur de sang étaient ornés de magnifiques boucles de bronze. À l'avant du timon était accrochée une image de la roue solaire avec ses quatre rayons. Sur la voiture se dressait une tente fermée faite de peaux de vache, dans laquelle était enfermée l'image de l'esprit de la terre, car les fulgurants, loin de mépriser la terre comme le faisaient les pêcheurs et les chasseurs d'Uracaipa, vénéraient la terre comme l'épouse du soleil. Les hommes voués à la mort traînèrent avec respect la voiture jusque dans les roseaux qui bordaient le lac. Et ils l'aspergèrent d'eau. L'ablution de la voiture terminée, il leur était permis de soulever, l'un après l'autre, un pan de la tente. Aucun autre homme vivant n'avait le droit de jeter un regard dans la demeure de l'esprit de la terre, et le prisonnier devait mourir aussitôt qu'il avait aperçu son image. Carélas était le dernier. Il écarta la lourde peau de vache, mais il faisait très sombre sous la tente. Il lui sembla qu'il n'y avait là que deux orbites gigantesques et blanches. Il demeura immobile, figé par la terreur. Alors, l'une des jeunes filles fleuries, écartant les lisses d'eau, vint le rejoindre. Doucement, comme une sueur, elle lui apposa sur les deux yeux le baiser glacial de la mort, le forçant ainsi à fermer les paupières. Cela fait, Elle le renversa dans l'eau et monta sur sa poitrine, tandis que tous entonnaient un chant lugubre. Mais après un temps, elle fit un signe impérieux pour les faire taire, et elle se pencha vers l'eau afin de mieux voir Carélas étendu sur le fond de sable. « Cessez de chanter, supplia-t-elle. Un grand miracle vient de s'accomplir auprès de la voiture habitée par l'esprit de la terre. C'est un cerf issu d'Oracaipa que nous venons de plonger dans l'eau, et il était si sale et si noir que je ne lui avais donné qu'avec répugnance le baiser de la mort pour éteindre ses yeux. Mais maintenant, voici que ses cheveux blondissent dans l'eau et il commence à devenir pareil à un des nôtres. Or, il est défendu de sacrifier comme cerf un de nous autres qui sommes nés libres. Pourtant, il a vu le visage de l'esprit et de la terre. Lui seul parmi tous les vivants l'a vu, répondirent les hommes. Et dans le cliquetis de leurs armes, ils s'inclinèrent avec respect. Puisque notre chef vient d'être conduit à sa dernière demeure, ceci est certainement un signe qui nous ordonne de prendre ce jouvenceau merveilleux pour chef, afin qu'il nous dirige vers de nouvelles victoires contre le peuple d'Oracaipa. Par ici, les champs à cultiver se font de plus en plus rares. Mais de l'autre côté du lac, il y a de vastes vallées à mettre sous le soc. La jeune fille releva Carélas et le ramena sur le gazon, mais il resta comme mort. Il avait contemplé les orbites figées de l'esprit de la terre. Par deux fois, il avait vu la mort. Et lorsque de nouveau, il commença enfin à parler, ce fut avec la gravité et la sagesse d'un homme mûr. Une activité fébrile anima les villages opulents quand tout le monde se prépara à partir en guerre. De grand matin, les corps de bronze lançaient leur appel et le métal jaune des marchands trouva des acquéreurs. D'habiles artisans formaient des moules de glaise dans lesquels ils coulaient le bronze fondu. Lorsqu'ensuite ils cassaient ces moules, ils trouvaient devant eux des armes magnifiques qui étaient pour ainsi dire prêtes à servir. « Prends ce qui t'est dû, chef, » disait-il à Carélas en lui offrant ce qu'il y avait de mieux. « Le haume et l'épée viennent de naître. Le haume et l'épée pour le guerrier, le soc et la bêche pour le travailleur. La tristesse d'Oracaipa. Dans le camp d'Oracaipa régnait durant ce temps un silence que n'interrompait nul mouvement. Lui-même se renfermait dans sa hutte, sombre, torturé par la seule vue de la roue solaire qui tous les jours traversait la tente céleste. Les anciens entraient chez lui, se rangeaient autour de son siège et soulevaient les couvercles de leurs crânes. « Chasse donc ta tristesse, implorait-il, et réjouis-toi avec nous. Jamais le temps ne nous fera défaut. Découvre le trou de ton crâne afin que les humeurs malfaisantes puissent s'échapper. » Mais lui se tournait du côté du mur, serrait les mains contre sa poitrine. Son visage hâlé était devenu maigre et fortement ridé. « Jamais vous ne saurez guérir le chagrin d'Oracaipa, murmura-t-il. Il avait pour ami un fils du peuple fulgurant. Bien que Carélas ne fût qu'un enfant, il savait pourtant beaucoup plus que nous autres, et il était plus noble et meilleur que nous. En parlant à Oracaipa de sa tribu, il lui faisait honte et réveillait dans sa poitrine des désirs nobles. Et de ce jouvenceau, nous avons fait un cerf. Cherchez de la terre et versez-la-moi sur la tête, que je devienne impur. Tout d'un coup, il s'élança et s'empara d'un petit couteau de silex qu'il cacha sous sa ceinture. « Ce fut notre punition que Carélas soit venu parmi nous, » continua-t-il. « Notre punition ? Parce que nous étions devenus paresseux, nous mettant à faire cuire des pots de terre et à installer des âtres. Autrefois, nos ancêtres erraient avec leurs arcs, possédant à peine une tente sous laquelle coucher. Et partout où ils passaient, ils sacrifiaient aux roches les plus grandes et les plus sauvages. » Telle était leur coutume, confirmèrent les anciens. Partout se dressaient les dieux de pierre recouverts de mousse. partout, dans la profondeur des gouffres, au bord des abîmes, au milieu des plaines, qui sont devenues aujourd'hui les champs des fulgurants. Et toutes les nuits, le feu des sacrifices flambait, continua Urakaïpa dans un souffle, et aucun étranger n'osait approcher. Oui, c'était ainsi jadis. Maintenant, Urakaïpa ne veut plus rester parmi vous. Il s'en retourne dans la grande forêt, creuser son abri sous l'amas de neige, comme le loup avait enseigné de le faire à ses ancêtres. Et lorsqu'il reposera dans la neige, et que les étoiles brilleront, il n'oubliera pas la promesse qu'il fait en ce moment. Il haïra Karilas, et il se vengera de celui qui lui ravit sa tranquillité. Avec un cri sauvage, il s'élança hors de la hutte et disparut bientôt sous les branches des pins, courant si vite que seul le lutin et le peuple d'Urakaïpa eussent pu le suivre. L'arrivée des fulgurants. Un jour, vers la fin de l'été, le peuple fulgurant approcha dans ses barques pointues faites de peau. Tel était le nombre des embarcations qu'on eût cru voir une bande de terre détachée de l'autre rive nager sur l'eau. Sans chef devant le danger menaçant, les anciens de la tribu d'Urakaïpa s'étaient dispersés dans la forêt. Seuls les cerfs étaient restés au camp. Tant par la curiosité que par la peur que leur inspiraient ces hommes, resplendissants comme s'ils avaient été revêtus du rayonnement solaire. À mesure que les barques avançaient sur eux, leur étonnement alla en grandissant. De la première barque qui accosta, un troupeau de chiens noirs et frisés sauta et se mit à courir en rond sur le bord du lac en bande serrée. Chaque fois qu'un de ces chiens s'arrêtait, le troupeau arrêtait son élan. Mais loin d'aboyer comme des chiens, ces animaux inconnus vagissaient comme des enfants. Effarés, les cerfs grimpèrent dans les arbres. Seul Sikoega était resté au bord du lac, fier de son courage. « Ce ne sont ni des chiens ni des enfants couverts de peaux de chiens, » cria-t-il aux autres. « Les fulgurants appellent ces bêtes-là des moutons. » Une nuit de pêche, Sikoega avait été fait prisonnier par les fulgurants, et durant plusieurs jours, il avait eu loisir de se familiariser avec les animaux domestiques de l'autre côté de l'eau, que les autres cerfs voyaient pour la première fois. Mais tout en parlant, il reçut d'une bête poilue un coup de corne formidable dans les genoux, et il n'eut que le temps d'attraper une branche de pin pour se hisser hors de sa portée. « C'est un bouc, gémit-il, l'animal cher au pâtre et au dieu du tonnerre. » De la seconde barque descendirent avec difficulté deux ogres aux poils en brosse, qui, après avoir enfoncé leur museau dans la terre avec un grognement, commencèrent une course folle. Les sorcières impures et vilaines, elles n'ont pas honte de fouiller la terre avec leur visage même, crièrent les cerfs. Mais Sikoega raconta que les sorcières étaient appelées porcs par les fulgurants, et que leurs guerriers les tenaient en grande estime. Tant ces hommes sont terribles, ajouta-t-il, malgré leurs vêtements faits avec des nuages d'été et leurs armes taillées dans des morceaux de soleil. Alors, il sembla aux cerfs qu'ils en avaient assez vu. Or, la troisième barque vint accoster, et derrière elle nageaient deux monstres qu'on aurait pu prendre pour des élans si leur couleur n'avait pas été aussi rougeâtre, et si leurs cornes ne s'étaient dressées, lisses et fuselées comme des flèches. Lorsqu'on les amena parmi les arbustes, en les tenant par les lanières de peau qui étaient attachées à leurs cornes, elles ouvrirent une large gueule et leur mugissement monta, sonore comme l'appel du plus grand corps de combat. « Ce sont des vaches !» déclara Sikoega. Ce sont les animaux les plus sacrés là-bas. Lorsqu'un de leurs chefs meurt, on l'entoure d'une peau de vache. Que ne tient-il pas en estime, ce peuple? Il révère depuis le soleil jusqu'à la boue de la terre. Mais non pas vous autres, au moins, répondit Karilas, qui venait de descendre à terre. Peu à peu, toutes les barques avaient été amenées entre les rochers au moyen de perches. Voyant les hommes approcher de leur retraite, les cerfs d'Urakaïpa déchargèrent leurs frondes sur les assaillants, mais aussi brandirent des boucliers et les pierres meurtrières retombèrent inoffensives autour des fulgurants indemnes. Voyant ce dernier miracle, incompréhensibles pour eux, les cerfs laissèrent tomber leurs armes. Tout d'abord, ils ne reconnurent point Carélas, qui s'avançait, le bouclier levé au-dessus du home. Il leur semblait que tous les hommes venus de l'autre côté de l'eau étaient pareils. Mais au son de sa voix, ils le reconnurent. Alors, il s'avança encore. « Moi, qui étais né libre, vous m'avez placé parmi les cerfs, » dit-il. « Maintenant, c'est moi qui vous fais mes cerfs, et dorénavant, vous travaillerez le terreau du sol dans la sueur de votre front. Il n'y a qu'un seul parmi vous que je veux épargner. Nous commanderons ensemble, car autrefois, il m'était très cher. Où est Ouracaïpa ?» Aucun des cerfs n'osa lui répondre. Alors, il comprit qu'Ouracaïpa n'était plus là. La tête baissée, il retourna sur l'herbe vigoureuse vers le fond de la vallée. Déjà, les guerriers avaient jeté leurs armes pour atteler les vaches à la charrue. Devant le soc, les filles fleuries avaient disposé une galette que tout d'abord le soc devait couper en deux, afin que la moisson devint abondante. Carélas saisit la poignée de la charrue, et l'attelage se mit en mouvement. Lourdement, lentement, solennellement, le premier sillon fut tracé dans le sol arrosé du sang du bois sacré d'Ouracaïpa. Dans la coudraie, des branches craquèrent. C'était Ouracaïpa qui s'y tenait caché, le couteau à la main. Le couteau était usé, ayant été trop souvent repassé. Et maintenant, il ne restait dans le manche de bois qu'un tout petit morceau de silex. D'un saut d'écureuil, il bondit sur Carélas, cherchant à atteindre sa gorge. « Toi que je hais !» cria-t-il dans un râle. « Toi que je hais !» Tout d'abord, Carélas chancela. Mais il n'était plus le frêle jouvenceau de naguère. Il avait acquis des forces. Il réussit à saisir Ouracaïpa et le souleva pour le lancer contre le sol. Mais alors, il sentit que l'ancien chef était devenu tellement affaibli, était tellement exténué de faim qu'il reposait dans ses bras presque inerte. Charitablement, il le déposa au bord du sillon. « Tu as beaucoup souffert dans la forêt abandonnée, » dit-il en lui tendant un morceau de la galette tranchée. « Mange donc les fruits de la terre. » Ouracaïpa se détourna dédaigneusement. Doucement, Carélas plaça la tête d'Ouracaïpa entre ses genoux, caressant amicalement les rides figées de son visage. Mais les yeux d'Ouracaïpa continuèrent de regarder fixement vers les dieux en pierre. Et Carélas comprit qu'il était mort. Les hommes de la forêt, ici, ont l'habitude d'enterrer leur chef dans la hutte qu'ils ont habitée durant leur vie, dit Carélas. Mais nous, érigeons-lui un vaste tombeau, comme il est d'usage chez nous, et disons les paroles magiques de la paix pour sa mémoire. Le soc continua à tracer de vastes cercles autour de la clairière sacrée qui fut ainsi conquise. Durant le travail, et longtemps après encore, un ciseau résonna un peu plus loin contre le rocher. Un homme habile de la suite de Carélas y gravait des images rappelant la conquête de la clairière sacrée. La longue rangée des bateaux y apparaissait, et les guerriers et les animaux débarquaient. Mais personne ne savait encore graver ni un mot ni un nom. Le fait, l'acte seul, c'était tout ce qui devait être rappelé. Chacun pouvait voir les images sur le rocher, chacun pouvait les interpréter à sa guise. Les funérailles d'Ouracaïpa. Les cerfs reçurent l'ordre de rassembler quelques-unes des grandes roches qui faisaient cercle autour de la clairière. Puis, ils disposèrent dessus une dalle allongée pour former un toit et un autel, et tout autour, ils amassèrent des pierres et de la terre. Lorsque le tumulus fut prêt, les anciens revinrent de la forêt où ils étaient tenus cachés. Ils portèrent Ouracaïpa dans le tumulus et l'installèrent le dos contre le mur. Entre ses pieds, ils firent du feu, et au-dessus du feu, ils accrochèrent une marmite bouillante. Puis, les anciens prirent place en face de leur chef mort pour partager avec lui le festin funéraire. Tout en haut, sur le tumulus, les sacrifices se tinrent debout, faisant doucement balancer la dalle supérieure qui avait été disposée de manière à faire bruire et résonner le tumulus lorsqu'on le remuait. Sur la dalle étaient pratiquées de nombreuses petites excavations qu'on enduisit de graisse et qu'on remplit de résine allumée en guise d'offrande. Les nombreuses petites flammes s'allongèrent droites et fines, et derrière la dalle, la lune apparut, sans que pourtant sa lumière ajoutât rien à la clarté lumineuse de la nuit d'été. Plus bas, vers l'eau, où les jeunes filles enguirlandées avaient amassé l'herbe coupée pour former un lit moelleux, Carylas et ses guerriers se reposaient. Les aumes brillaient sur les branches d'arbres, et les bardes chantaient en pinçant vigoureusement les cordes des harpes. De temps à autre, lorsqu'ils s'interrompaient de jouer, on pouvait percevoir le bruit du festin à l'intérieur du tumulus. Les anciens criaient. « Tu ne manges pas, Orakaïpa ? Tu ne bois pas ? Tu ne parles pas avec tes hôtes ? Et pourtant, ne venons-nous pas de te redresser sur ton siège, afin que le soleil pût entrer par le trou de ton crâne et boire ton esprit ? Ne t'avons-nous pas donné des vêtements neufs ? Et ne t'avons-nous pas entouré d'armes et de peaux remplies de nourriture, afin que tu ne te trouves pas nu ou dénué, si jamais tu voulais sortir pour aller à la chasse ?» Tout en parlant ainsi, ils cassèrent les assiettes de terre dans lesquelles ils venaient de manger. Les éclats crépitèrent sous leurs pieds quand ils sortirent du tumulus, puis ils refermèrent l'ouverture derrière eux. D'autres choses te préoccupent maintenant, mais jamais le temps ne te fera défaut, continuèrent-ils. Tu es là à te demander d'où il est venu, ce peuple victorieux qui garde encore du soleil captif dans ses armes. Nous comprenons bien, Orakaïpa, que tu veux rester seul. Sous la marmite, chez le mort, le feu flambait toujours, illuminant de sa lueur les crevasses entre les pierres supérieures. D'où sommes-nous venus ? Répéta Carylas. Et dans un geste interrogateur, sa main désigna l'est et le sud. Barde, qui de vous saurait bien répondre à Orakaïpa ? Qui saurait éclaircir l'énigme ? Depuis longtemps, nous habitons ici, et peu à peu, nous avons appris à fabriquer nos armes fulgurantes. Je sais seulement, ô barde, qu'aucune de nos vieilles sagas n'a gardé le souvenir d'une nuit aussi belle que celle-ci, et que c'est ici que nous créerons un pays habitable pour les hommes.